débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. C'est une campagne électorale pleine d'incertitudes qui s'est ouverte ce vendredi en Espagne. Depuis plus de 5 mois, le pays en effet n'a plus de gouvernement, précisément depuis les précédentes législatives qui s'étaient soldées par un échec total, aucune formation politique ne parvenant à s'entendre pour former une coalition. Et c'est peu de le dire, l'Espagne n'a pas besoin d'une crise politique, elle qui a vu, sur le plan économique, le nombre de chômeurs en un peu plus de 5 ans tripler. Mais les dernières tendances dans ce domaine ont de quoi donner de l'espoir. Alors est-ce que cette fois-ci c'est la reprise en Espagne, ou est-ce que l'embellie risque d'être de courte durée, notamment à cause de ces incertitudes politiques? C'est notre débat ce soir. Et pour en parler, nos deux invités en studio, Barbara Loyer, bonsoir.
Bonsoir.
Professeure à l'Université de Paris 8, directrice de l'Institut français de géopolitique et co-auteur de l'ouvrage « L'Espagne en crise ». Face à vous, Jesús Castillo, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, spécialiste de l'Europe du Sud chez Natixis. Alors j'évoquais les dernières tendances sur le front de l'emploi, elles sont très positives effectivement, puisque pour la première fois depuis près de 6 ans, en Espagne, le nombre de chômeurs est passé sous la barre des 4 millions, selon les chiffres qui ont été publiés il y a 8 jours. Jesús Castillo, première question, vous qui êtes économiste, est-ce que cette indication permet de dire que l'emploi repart cette fois durablement en Espagne ?
Alors oui, on a une tendance qu'on voit depuis déjà plusieurs mois maintenant en Espagne, avec une croissance, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais juste un emploi qui augmente à un rythme d'environ 3% par an, quoi. Donc c'est extrêmement positif. Après, de l'autre côté, quand on regarde le niveau du taux de chômage, on voit qu'il est encore très élevé, 21%. Donc 21%, c'est deux fois plus que la moyenne des pays de la zone euro à peu près.
D'ailleurs, l'Espagne est le pays le plus touché par le chômage en Europe derrière la Grèce, encore aujourd'hui.
C'est le pays le plus touché quand on regarde pendant la période 2008 à 2013, là où le chômage explose partout en Europe, on voit que un nouveau chômeur sur deux en zone euro est espagnol.
Alors, on revient au niveau de 2009 avec les chiffres qu'on vient d'évoquer, soit proche du milieu de la crise en Espagne 2009, qui s'est terminée 3 ans plus tard. Barbara Loyer, ça veut dire quoi? Qu'il faut encore attendre 3 ans pour que la reprise soit cette fois durable?
Tout dépendra aussi, j'imagine, de la situation politique. D'autant que cette situation politique, elle est particulièrement instable dans une des régions espagnoles qui a été un des moteurs économiques de l'Espagne, la Catalogne. Donc, je ne saurais pas vous dire s'il faut attendre 3 ans pour que ça redémarre. Il faut un gouvernement pour faire des choix structurels et faire évoluer cette économie qui a été quand même beaucoup basée sur des emplois de qualité moyenne. Et donc, je ne suis pas sûre que...
Futur gouvernement, quel qu'il soit, changera la donne après les législatives, on le rappelle, du 26 juin prochain.
Je ne pense pas que le Parti populaire ait véritablement l'intention de changer de politique économique, puisque là, ils sont en train d'engranger ce qu'ils considèrent être des résultats positifs. Donc, les politiques d'austérité devraient continuer, d'autant qu'il y a de nouveau des déficits qui semblent s'emballer. En revanche, en effet, si c'est un gouvernement de gauche, on aura des changements tout à fait importants.
Si le prochain chef du gouvernement s'appelle à nouveau Mariano Rajoy, Jesús Castillo, lui qui a déclaré, après les récents chiffres, la direction prise est la bonne, continuons, ça veut dire qu'il faut s'attendre à quelle politique sur le front de l'emploi ?
Alors, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça a été l'application un petit peu des recettes classiques orthodoxes en matière de marché du travail. Ça a été rendre le marché du travail plus flexible, donc assouplir les coûts du licenciement, rendre les relations au sein des entreprises, les conditions dans lesquelles on peut modifier un contrat de travail, sa durée hebdomadaire, ce type d'éléments du contrat de travail plus souple. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans les projets du gouvernement français avec la loi El Khomri. Donc ce type de réforme qu'on a appliqué aussi en Italie. Alors, ces réformes, c'est très bien parce que d'un côté, ça baisse le coût du travail et on voit bien que ça a permis à l'Espagne de gagner en compétitivité, donc que ses produits soient moins chers par rapport à ceux de ses principaux concurrents, et donc d'aider les entreprises à avoir gagné des parts de marché et vendre davantage, donc créer de l'emploi.
Mais un emploi qui reste précaire, beaucoup de contrats à durée déterminée,
voilà,
majoritairement.
quand on regarde quel type d'emploi a été créé, on voit que c'est des emplois qui restent encore beaucoup à durée déterminée, qui sont mal payés. Donc ça, c'est un élément important aussi dans l'emploi, c'est combien on gagne aussi, parce que c'est ça aussi qui fait de la demande intérieure. Et puis, dans des secteurs d'activité qui sont pas les plus productifs. Donc, ça s'est beaucoup développé dans l'hôtellerie, dans tous les services à la personne, quoi, les services sanitaires, sociaux, aussi dans l'éducation. Mais après, quand on regarde la part des emplois créés dans les entreprises les plus productives, on pense à l'industrie, c'est beaucoup plus faible. Et donc, ça, à long terme, on sait pas comment on fait de la croissance forte et durable à long terme avec ce type d'emploi.
Et en même temps, est-ce qu'un début de reprise peut se faire autrement que par des emplois précaires, comme vous venez de le citer ?
Alors, c'est une bonne question, parce que après, l'alternative, c'est de ne pas avoir d'emploi. Donc,
c'est moins pire, alors, on va dire, la situation
voilà,
aujourd'hui.
Donc, qu'est-ce qui est pire ? Être chômeur, et sachant aussi qu'en Espagne, il y a un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé, parce que les personnes sont en fin de droit. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être un employé mal payé qu'un chômeur non indemnisé ? Donc, c'est un vaste débat et c'est des vrais choix de politique. Et là, le gouvernement aura des choses à dire.
Barbara Loyer, le ministre de l'économie, propose de pénaliser les contrats à durée déterminée. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ?
Je ne saurais pas vous le dire là, pour le coup.
Pour vous ? Est-ce que ça peut rendre la reprise durable ou est-ce que finalement ça peut couper un peu l'herbe sous le pied de cette vague un petit peu d'emploi qui naît depuis quelques mois en Espagne après la crise ?
Moi, je pense que si vous voulez créer de l'emploi durable, ça suppose encore une fois de faire les choses sur le long terme. Ça peut pas. Je pense que c'est pas en coupant en coupant l'herbe sous le pied d'un certain type d'emploi qu'on en crée d'autres. Donc ça suppose des profondes transformations. C'est vrai qu'on est dans un pays qui, depuis les années 80, a fait des choix économiques qui ont provoqué aussi cette bulle immobilière, qui ont endetté les particuliers. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de choix qui ont été des choix malheureux et qu'il faut maintenant s'engager sur des orientations stratégiques qui sont sans doute différentes. Je pense que l'ensemble de la population et de la société espagnole a cru dans une sorte de mirage qui a été le mirage d'un enrichissement rapide qui permettait de tourner la page d'une histoire de pauvreté dont plus personne ne voulait entendre parler et que du coup il y a eu, oui, je pense qu'une forme de mirage et qu'il faut sortir de ce modèle.
Donc ça veut dire un renouveau politique, selon vous, pour inscrire durablement la reprise en Espagne ? La fin du Parti Populaire ? La fin de Mariano Rajoy ?
Je dirais plutôt un profond renouveau déjà des partis en place. Parce que le Parti Populaire représente quand même une part importante des électeurs. Le Parti Socialiste, maintenant, on ne sait pas trop ce que ça va donner pour les prochaines élections. Mais donc, du coup, il est au moins important que le Parti Populaire, par exemple, se régénère. On a quand même une immobilité à l'intérieur de ces partis qui est problématique. Et puis après, il y a évidemment l'arrivée des nouveaux partis. Mais la nouvelle gauche qui est en train peut-être de dépasser le Parti Socialiste, on ne sait pas du tout ce que ça va donner si elle arrive au pouvoir, car elle est constituée elle-même de coalitions extrêmement compliquées. Et donc le potentiel d'instabilité est quand même non négligeable.
Jesús Castillo, il faut un nouveau visage du Parlement, finalement, en Espagne, pour avoir des résultats durables sur le front de l'économie. C'est nécessaire aujourd'hui ?
Ce qu'il faut, c'est effectivement avoir un gouvernement en capacité de gouverner et d'avoir des majorités. Et c'est pas le cas depuis 5 mois. Et on a bien l'impression que ce que nous disent les sondages aujourd'hui, c'est qu'on va tout droit vers la reproduction de ce qui s'est passé il y a 5 mois. Donc, que vont faire les
Des législatives pour rien à venir alors ?
En tout cas, on n'a pas l'impression que ça va reconfigurer profondément le Congrès des députés et puis qu'il y a un parti qui va sortir victorieux largement et qui va dire « voilà, maintenant j'ai été désigné pour diriger le pays », que ce soit à droite, à gauche, au centre, où on veut.
Qu'est-ce qui serait nécessaire pour sortir de cet immobilisme ?
Alors aujourd'hui, on voit que, comme disait Barbara, la gauche... C'est reconfiguré avec l'émergence de Podemos, avec au centre l'apparition d'un parti du centre qui n'existait absolument pas en Espagne.
Ciudadanos.
il y a 2 ans. Hein, on parle de choses qui se sont faites très très vite. Et puis la droite conservatrice traditionnelle qui reste complètement figée, qui n'avance pas, qui ne se renouvelle pas. Alors ça peut être extrêmement dangereux parce que on voit comment à travers l'Europe. Ça favorise l'émergence de populismes qui soient de droite, de gauche, des choses assez radicales et pas très sympathiques, j'avais envie de dire.
Une grande coalition gauche-droite à l'allemande est nécessaire?
Alors, ça serait certainement la solution qui donnerait la plus grande stabilité et qui permettrait de faire passer un certain nombre de réformes, parce qu'il y a des choses à faire. Mais c'est pas le scénario, moi, que je pense le plus probable aujourd'hui.
Et vous, Barbara Loyer?
C'était un petit peu difficile à dire parce que l'enjeu pour le Parti socialiste est très important. Si jamais Podemos passe devant grâce à son alliance avec Izquierda Unida, donc qui était l'équivalent d'une coalition avec le Parti communiste dedans, si cette coalition passe devant le Parti socialiste, en acceptant d'une certaine manière sa défaite et en acceptant un gouvernement qui serait dirigé par Podemos et Izquierda Unida, joue sa survie dans cette histoire. Donc ce sont des choix cruciaux à faire et je pense que les débats contradictoires au sein du Parti socialiste vont être très compliqué. Après, tout va dépendre aussi de la façon dont les choses se passent dans les différents territoires. Il est possible aussi que le Parti populaire se retrouve à passer devant le Parti socialiste en Andalousie, ce qui ne s'est pas encore vu depuis la transition. Parce qu'il n'y aura pas d'alliance entre Podemos et... Parce que la gauche sera complètement divisée en Andalousie. Donc du coup, les rapports de force au sein du Parti socialiste évolueront aussi. En Catalogne, c'est la même chose. Les socialistes catalans étaient un des piliers du socialisme en Espagne. S'ils se retrouvent totalement dépassés, ils sont extrêmement affaiblis. Donc qui seront les socialistes qui auront du poids pour discuter à l'intérieur du Parti socialiste, c'est ça aussi qui va être en jeu.
Est-ce que vous pensez, comme Jesús Castillo, qu'on peut se retrouver finalement comme après les législatives de décembre, après le 26 juin, c'est-à-dire sans gouvernement à nouveau?
Ça ressemble à ça.
On se dirige vers cela, selon vous, avec les conséquences que l'on peut imaginer sur le plan économique?
C'est possible.
Nouvelle cure d'austérité en vue?
C'est ce que demande l'Union européenne, mais sans gouvernement... Là, vraiment, franchement, c'est très difficile de vous dire ce que vont faire les uns et les autres.
Ça veut dire des projets à l'arrêt, pas de gouvernement. C'est le cas depuis 5 mois. Oui, de nombreux chantiers en Espagne.
Oui, ça veut dire des projets à l'arrêt. Ça veut dire aussi des difficultés qui peuvent s'accumuler encore une autre fois au niveau régional. La Catalogne est très endettée. La Catalogne a besoin de décisions prises au niveau... Le gouvernement catalan, qui est indépendantiste, a besoin aussi de négocier des financements de la part du gouvernement central à Madrid. Donc au bout d'un moment, la machine se grippe.
L'Espagne s'endette, Jesús Castillo, 5% du PIB, hein, le déficit public en 2015.
Oui, alors 5% du PIB, c'est loin de l'objectif de ce fameux seuil de 3% fixé par Bruxelles. Alors après, il ne faut pas regarder ce chiffre juste comme ça, il faut voir d'où on vient. On vient de plus de 11% de déficit il y a 5 ans. Donc le gouvernement de Mariano Rajoy, sur ce plan-là, a réussi à réduire ce déficit de plus de 5 points. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais suivi les différents objectifs intermédiaires que lui-même avait fixés en lien avec la Commission européenne. Donc on parlait tout à l'heure du bilan de ce gouvernement sur le front de l'emploi, où effectivement il y a eu presque 1 million d'emplois créés au cours des 4 années du précédent gouvernement. Par contre, les finances publiques, ça reste un point noir de l'économie espagnole. Et tant qu'on a un déficit à 5%, la dette publique espagnole continue à augmenter, que ce soit la dette de l'État central ou la dette des régions qui ont elles-mêmes des déficits pour certaines assez importants.
Et pourtant, la croissance est l'une des plus soutenues d'Europe en Espagne. Hein. 2,6% prévu en 2016, 3,2% du PIB l'an dernier.
Oui, alors c'est une des locomotives de la zone euro, hein, parmi les 4.
C'est un caviar qui n'est pas exploité finalement.
Alors, ce qu'on voit, c'est que ça s'est pas traduit par la poursuite de l'ajustement des finances publiques. Alors, peut-être que c'est parce qu'il y a eu moins d'austérité, moins de réduction de la dépense publique, moins de perception d'impôts, qu'on a cette croissance aussi forte. Si on avait été plus orthodoxe sur les finances publiques, peut-être qu'on n'aurait pas eu 3%, mais 2 ou 1,5%. Donc, mais on n'aurait plus de déficit.
C'est le nœud du problème.
C'est un vrai débat.
C'est le nœud du problème, selon vous, Barbara Loyer, le déficit public, le niveau de la dette en Espagne, ou est-ce que la croissance, finalement, peut permettre de relancer l'emploi ?
Alors, du point de vue, si vous voulez, économique, je ne sais pas si c'est le nœud du problème. Parce que si on serre trop les vis, c'est que on peut aussi détruire de l'emploi et toute une partie de l'emploi public. Donc en fait, l'équilibre pour que les choses redémarrent, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que dans l'équilibre politique de l'Espagne, cette question du déficit et notamment du déficit des communautés autonomes que le gouvernement central a repris en main pour leur interdire absolument de dépasser théoriquement un certain seuil de déficit a une importance très grande pour ce qui est de la fluidité des relations politiques à l'intérieur de l'Espagne, donc joue un rôle très important dans les blocages actuels. Si Podemos est si important, c'est aussi parce que Podemos est allié avec tout un tas de partis nationalistes périphériques. Et du coup, ça, si vous voulez, la force de la gauche repose sur la promesse d'un référendum en Catalogne. La promesse de ce référendum en Catalogne a une influence directe sur le Parti Socialiste parce que les socialistes ne le veulent pas. S'il y avait un référendum en Catalogne, ça aurait une influence directe sur le Pays Basque, voire la Galice. Enfin, je veux dire, donc on est dans un enchaînement de choses qui sont tout à fait compliquées à prévoir.
Donc finalement, les bons chiffres qu'on a cités en début d'émission, sur le front de l'emploi, sont uniquement à attribuer à la croissance dans cette situation financière compliquée.
J'avoue que moi, je ne peux pas vous le dire.
Régis Castillo.
Pas uniquement. Il y a de la croissance, mais il y a aussi une reprise qui est très, très saine en Espagne par une amélioration des gains de compétitivité. Alors ça veut dire qu'on arrive à produire la même quantité ou plus en dépensant moins de ressources et d'argent pour cette production. Donc on est moins cher que les autres. Ça génère de l'investissement. Et l'investissement génère l'augmentation des capacités de production, donc de l'emploi. Donc là, on a une vraie reprise qu'on appelle cyclique dans le jargon d'économiste, qui est ce qu'on étudie dans les manuels d'économie. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il y a d'autres...
Elle est cyclique, mais parce que quand même, tous les deux, vous êtes très pessimistes. Est-ce que l'Espagne, tout simplement, peut replonger dans la crise ?
Alors l'Espagne, moi j'identifie en gros trois problèmes.
Hein. Quand la conjoncture, on a bien compris, sera passée, hein, les conjonctures positives que vous avez citées, oui. Ce cycle.
Mais quand on regarde le marché du travail, il est extrêmement lié au niveau de la croissance. Donc si la croissance ralentit, les créations d'emplois vont ralentir. Et si ça retombe en récession, on aura à nouveau du chômage. Donc ça, c'est un lien qui est assez évident. On a parlé des comptes publics. Les comptes publics, effectivement, on a réduit le déficit, mais depuis 2 ans à peu près, c'est uniquement parce qu'il y a de la croissance. Et on n'a rien fait pour consolider, assainir durablement les finances
Donc
publiques.
Donc on est d'accord que la reprise en Espagne ne tient que par la croissance aujourd'hui, et uniquement d'ordre conjoncturel et absolument pas politique.
Oui, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de réformes structurelles en Espagne. Hein. On ne peut pas nier ces éléments, que ce soit quand même aussi sur les finances publiques ou sur le marché du travail ou la réforme bancaire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais c'est vrai que ça a marqué un coup d'arrêt au cours des 2 dernières années.
Et notamment la réforme du travail que vous avez citée en début d'émission. Merci beaucoup, Régis Castillo. Ainsi se termine déjà notre émission. On a bien compris en tout cas que la situation économique en Espagne dépendait de la future situation politique à l'issue des prochaines législatives du 26 juin. Régis Castillo, économiste spécialiste de l'Europe du Sud chez Natixis. Barbara Loyer, merci à vous, professeure à l'Université de Paris 8, directrice de l'Institut français de géopolitique. Et puis vous êtes la co-auteure du livre L'Espagne en crise. Ce débat est maintenant terminé. Merci à Florence Ponce et à Claude Battista. Dans 30 secondes, le retour de l'info sur RFI.